Conférence privée par le père Philippe à Saint-Joseph, le 13 janvier 1987.
Devient des vieux garçons. le baptême Cana, et puis la transfiguration. L'Orient met toujours en parallèle, ce sont les manifestations. Les manifestations de l'amour, du bien-aimé. Alors on comprend comment Cana, c'est le mystère de l'horizon. Et le mystère de l'horizon, c'est la révélation intérieure que l'Esprit Saint fait au plus intime de nous-mêmes, que nous sommes des bien-aimés du Père par Jésus, parce qu'on est un avec Jésus. Alors à ce moment-là, on est des bien-aimés du Père, et on essaie de répondre à cela. On essaie de répondre à cet amour, en sachant que cet amour est source de tout autre amour. Si on aime vraiment Dieu, si on était aimé du Père comme un bien-aimé et qu'on essaie de répondre à cet amour, alors on sera capable d'aimer nos frères. On sera capable de les aimer. De les aimer comme le Père les aime. Alors évidemment, il ne faudra pas trop le manifester. Eh ben, ça se cache intérieurement, c'est un secret l'amour. C'est toujours un secret. Mais ça se vit. Et on vit une charité fraternelle très intense. Et il faut vivre cette charité fraternelle très intense, les uns pour les autres. Parce que nous sommes et nous reconnaissons cela, que nous sommes aimés de cette manière. Vous voyez comment l'horizon rejaillit immédiatement en charité fraternelle. C'est impossible autrement de découvrir dans le silence de l'amour, de découvrir auprès du cœur de Jésus qu'on est des bien-aimés du Père, et découvrir à ce moment-là que tous ceux qui sont proches de nous sont aimés du même amour, et que Jésus désire et que le Père le veut, que nous puissions nous aimer dans le même amour. Alors ça fait des liens extraordinairement forts. Et c'est ça une communauté religieuse. C'est une communauté de tous ceux qui vivent le plus intensément possible ce mystère de l'alliance avec le Père. Et ce mystère de l'alliance avec le Père que nous découvrons à travers le cœur de Jésus, que dans le Christ nous sommes des bien-aimés. Ce mystère d'alliance se découvre dans l'horizon et se vit dans l'horizon. Oui, il peut se faire, c'est très vrai que nos horizons quelquefois sont extrêmement sèches, arides. Ça n'a aucune importance quand on sait ce que représente l'amour divin. C'est pas une question de sentir avec notre pauvre petite sensibilité. C'est bien plus profond. Un jour, il y aura l'harmonie parfaite. C'est pour ça qu'il y aura des corps glorieux. Parce que les corps glorieux seront en harmonie avec l'agapétos. Il y a que les bien-aimés qui ressuscitent. Qui ressuscitent avec un corps transformé par l'amour. Et qui sera en harmonie parfaite avec cet amour qui nous lie au Père, qui nous lie à Jésus. Parce que la résurrection de ceux qui sont d'années, c'est beaucoup moins drôle. Hein. Et eux aussi, ils auront ressuscité. Mais ressuscité non plus du tout pour la gloire, mais ressuscité pour la pénombre, pour l'obscurité. Nous devons regarder, nous, la résurrection des bien-aimés, et comprendre que ici sur terre, nous acceptons que notre sensibilité ne soit pas pour nous ce qu'il y a de principal. Nous acceptons dans l'ordre de l'amour qu'il faut dépasser cette sensibilité. C'est pas le principal. Le principal, c'est de vivre dans la foi, l'agapétos, le bien-aimé. Et ce lien, c'est de vivre dans la foi, c'est de le contempler. Alors qu'il y ait une répercussion dans notre sensibilité, tant mieux ça nous aide. Mais qu'il n'y ait aucune répercussion dans notre sensibilité, tant pis. On offre de rester là, dans l'insensibilité. On reste dans sur l'insensibilité. C'est pas une insensibilité volontaire. On bâtit. Mystère de l'oraison. C'est grand le mystère de l'oraison. Il faut essayer d'y entrer. C'est la première chose qui nous est enseignée. Et donc, Jean, qui a compris que le premier signe que Jésus nous donne, c'est les noces de Cana, avec la transformation de l'eau en vin. Et ceci en surabondance et en qualité. Jean veut nous faire comprendre ce que c'est que l'amour, la surabondance en quantité et en qualité. Et là, il n'y a plus de danger parce que les deux s'unissent. Et qu'il n'y a pas de mesure dans l'amour, en dehors de l'amour. C'est l'agapétos, c'est le bien-aimé qui est la mesure même de l'amour. Jean, en nous donnant Cana, a sûrement, si saint Thomas l'a découvert, vous comprenez que saint Jean l'a découvert, hein. Saint Jean, suis sûr, on se sert de saint Thomas pour découvrir saint Jean, parce que saint Jean est tellement muet, tellement silencieux, par rapport à lui, il ne nous dit rien de lui, saint Thomas non plus pas beaucoup, ça c'est les très grands saints, ils disent très peu de choses d'eux, mais ils sont tellement habités par le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ils sont tellement habités par le Christ qu'il n'y a plus que le Christ qui est intéressant. Et ça, c'est Jean. Jean, il n'y a plus que le Christ qui est intéressant. Et il nous fait comprendre que ce qui est intéressant dans Jésus, c'est le Père. Parce que le Père se repose en lui. C'est ça, être bien aimé du Père. C'est être le lieu du repos du Père. Et le lieu du repos du Père, c'est ce qu'il y a de plus profond, de plus intime dans notre raison. Et c'est cela dont on doit vivre. On doit tendre de plus en plus à vivre de cela. Je continue, parce que découvrir le cœur de saint Jean, découvrir ce que Jean a compris de Jésus, et ce que Jean veut nous dévoiler en Père, il veut nous engendrer à cette vie. Dont il le fera. Alors il a tout de suite compris, hein, ce que les autres ne disent pas. Et donc c'est un secret de saint Jean. Après cela, il descendit à Capharnaüm, ainsi que sa mère, ses frères et ses disciples. Ils n'y demeurèrent que quelques jours. Jean comprend tout de suite et nous signale la présence de Marie durant toute la vie apostolique de Jésus. Vous voyez comme c'est important, présence de Marie dans l'oraison, présence de Marie dans toute notre vie apostolique, présence de Marie dans toute notre charité fraternelle. C'est ça que Jean veut nous faire comprendre. Et on ne peut être vraiment disciple de saint Jean que si Marie a cette place primordiale pour nous. Et alors nous préparer à l'année mariale, c'est de faire que tout de suite nos oraisons soient enveloppées la présence de Marie. C'est de faire que tout notre travail se fasse sous le regard de Marie. C'est de faire que toute notre vie fraternelle, elle aussi, se passe dans le regard de Marie. Alors nous avons ensuite ce passage que nous connaissons bien, que saint Jean met tout à fait au début. Là aussi c'est significatif, hein. Chasser les vendeurs du temple. Alors ici peu importe, mais je crois que c'est tout à fait premier, parce que c'est les grandes purifications, ça. C'est une purification très très forte que Jean a compris, et qu'il a compris pour lui. Pour nous, parce que c'est trop facile de dire ah, ça c'est bien pour les vendeurs qui sont dans le temple. Nous on n'est pas vendeurs dans le temple, on l'est tous un peu. On est tous un peu. Alors qu'est-ce que ça veut dire, hein, spirituellement et profondément? C'est la confusion entre le sacré et le profane. même si on vend des bœufs pour les sacrifier. Et des taureaux. Le commerce, c'est d'homme à homme, justice commutative. Ça reste au niveau humain. Il n'y a rien de sacré. Il y a une confusion que Jésus ne peut pas supporter. Alors, ce que je crois que Saint Jean veut nous faire comprendre ici, c'est la vulnérabilité du cœur de Jésus. Il faut être très proche du cœur de Jésus pour comprendre sa vulnérabilité. Il faut être très proche de quelqu'un et l'aimer beaucoup pour comprendre sa vulnérabilité. Pourquoi on vit comme on se fait si facilement mal les uns avec les autres, et que certaines paroles ne devraient pas être dites parce que ça les blesse et ça peut blesser profondément certains. C'est parce que nous ne sommes pas assez attentifs aux vulnérabilités de nos frères. On est vulnérable dans la mesure où l'on aime, vous savez bien. Les aspects où on n'aime pas, on n'est pas vulnérable. Les commerçants ne sont pas vulnérables. Ils luttent comme des baleines. Mais ils luttent les uns contre les autres. Ils ne sont pas vulnérables. Parce que s'ils étaient vulnérables, ils ne seraient plus des commerçants. Ils ont des rivalités. Des rivalités, mais ce n'est pas la vulnérabilité. C'est pas la vulnérabilité, c'est juste l'inverse. On veut être premier, on veut l'emporter, écraser l'autre dans la lutte. Être vulnérable, ça provient de notre amour. Et le cœur de Jésus, c'est le cœur le plus vulnérable de tous les cœurs humains. Parce que c'est le plus aimant. Et Jean, tout de suite, et ça c'est beau, sous le souffle de l'Esprit Saint, Jean comprend que ce qu'il y a de plus grand dans le cœur du Christ, c'est d'être l'agapétos, le bien-aimé du Père, et qu'il veut que nous devenions des bien-aimés. Mais immédiatement, parce qu'il est le bien-aimé du Père, il y a en lui une vulnérabilité étonnante. Une vulnérabilité qui fait que Jésus a souffert du milieu dans lequel il était. Quand vous souffrez de la vie commune et vous dites, oh, quand même, j'ai des hippopotames à côté de moi, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et non pas ma sensibilité est tellement exquise comparativement à la leur, vous voyez. Vous avez toujours une sensibilité exquise par rapport à celle du voisin. Alors, on compare. Il faut toujours se rappeler que Jésus, dans sa vulnérabilité, lui a souffert terriblement de la communauté humaine. Je crois qu'on peut dire quand même qu'il a souffert de la communauté de la Sainte Famille. Pourtant, c'est très délicat à dire ça. Je crois quand même. Quand on est Dieu, vivre une vie humaine, vous voyez ce que c'est? Quand on est Dieu, vivre une vie humaine, et vivre une vie humaine comme tous les autres enfants, et accepter que cette vie humaine nous met respecte pas la paternité du Père, que le Père est Père, et que parce qu'il est Père, on doit l'honorer, on doit l'adorer, et qu'on ne peut pas adorer le Père et l'honorer en restant avec une mentalité humaine.
Cessez de faire de la maison de mon Père
maison de commerce. La maison du Père doit être une maison d'adoration. Et ça ne peut être qu'une maison d'adoration. L'adoration est dans le premier amour. Donc, une maison où règne l'amour. Et les hommes en font une maison de commerce. Alors, comprenez, le véritable temple, c'est le corps du Christ. Et à la suite du corps du Christ, c'est vous. C'est nous. C'est notre corps. Notre corps doit être le lieu de l'adoration. Et notre corps est fait pour cela. Une adoration qui s'exprime. Une adoration qui se dit. Une adoration qui nous permet de nous mettre dans un état de docilité à l'égard de la grâce de Dieu. Parce que notre corps peut être très bien le lieu du commerce. Ça, c'est sûr. Commerce utile, commerce agréable, commerce délectable. Mais qui n'a rien à voir avec l'adoration. Alors à ce moment-là, notre corps a la place de permettre à la grâce, permettre à l'amour divin de pénétrer toujours plus avant au bien-aimé, de s'emparer notre sensibilité, nos passions. Notre corps devient un obstacle à cette communication de la grâce. Et c'est en adorant que nous mettons, que nous mobilisons toutes nos forces. Mobilisation générale, l'adoration. On mobilise toutes ses forces. Et on le fait volontairement. On mobilise toutes ses forces pour que la grâce puisse pénétrer. Jean a très bien ces choses-là. Et il l'a sûrement vécu. Temple du Saint-Esprit par l'adoration. Et nous faisons que ce temple soit un véritable temple de l'Esprit-Saint dans la mesure même où nous voulons adorer. Et c'est en notre pouvoir, directement. Nous sommes responsables en face de Dieu de la plénitude notre adoration, ou au contraire, de la pénurie de notre adoration. Nous sommes responsables en face de Dieu du nombre d'actes d'adoration que nous faisons par jour. La prière continue, c'est l'adoration. C'est cette adoration qui doit être une prière continue en nous et qui doit nous mettre constamment en liaison pour ceux qui sont joanniques. La prière continue, c'est l'adoration. Faire que nous devenions le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, Jean a compris en nous donnant Cana et la purification du temple. Jean a compris que les deux aspects ultimes de notre cœur, que les deux battements les plus profonds de notre cœur humain, transformés par la grâce du Christ, c'est l'adoration en esprit, en vérité, et c'est l'amour. Et cet amour, avec cette modalité d'un amour qui est vécu comme des noces avec Jésus. C'est les deux extrêmes, et on va toujours de l'un à l'autre. Plus vous adorez, plus vous désirez aimer, plus vous aimez, plus vous désirez adorer, parce que plus on aime, plus on respecte celui qu'on aime, et plus on comprend tout l'abîme qui existe entre le profane et le sacré, et on désire être des êtres totalement consacrés. Et c'est par là qu'on aime la vie religieuse. Quand il y a encore un petit dégoût de la vie religieuse, c'est parce qu'on n'a pas encore compris que c'était par la vie religieuse que tout en nous devenait sacré. Et que par la vie religieuse, on supprimait de plus en plus le profane. Et ça, c'est vrai. On supprime de plus en plus le profane. L'habit religieux montre bien cela. Et l'habit religieux, ce n'est pas un habit qu'on met c'est celui qu'on ne quitte pas. Parce que toute notre vie est donnée et toute notre vie est consacrée. Et d'un déconsacré pour être témoin de l'exigence de la majesté souveraine du Père. Vous voyez, dans notre monde, qui est un monde qui se laïcise, comme le Saint-Père ne cesse de le souligner. Et pour le Saint-Père, c'est sans doute le plus grand mal de notre monde. C'est un monde qui se laïcise. C'est un monde qui rejette systématiquement tout ce qui est religieux, tout ce qui est sacré. Et c'est pour ça que c'est un monde qui au fond, n'aime pas le témoignage de la vie religieuse et la vie religieuse. Les enfants, oui, parce qu'ils ne sont pas encore contaminés. Mais les autres, ils n'aiment pas. C'est curieux, ça. Il y a un rejet, mais terrible. Et on se laisse prendre. Et on sent très bien qu'on doit réagir. Mais réagir, pas pour être des réactionnaires, réagir pour aimer plus. Réagir avec beaucoup de souplesse. Mais il faut réagir. Parce que si on se laisse aller, très très vite, vous savez, au bout de 3 ans de vie religieuse, de vie apostolique, vous dire au fond, le milieu dans lequel je suis, oui, c'est mieux que je sois laïque. Alors, apostoliquement, il vaut mieux être en laïque. Ça se fait très vite, hein, parce qu'il suffit de rencontrer quelqu'un qui nous dit, mais tu es tellement mieux en laïque. Tu es tellement plus proche de nous. Tellement plus proche que nous. Alors, on se laisse prendre. On oublie qu'on est témoin du temple de Dieu. Qu'on doit vivre de ce temple de Dieu. On oublie que Jésus s'est mis en colère pour ceux qui ne distinguaient plus avec suffisamment de netteté le profane et le consacré. Et nous voulons être de plus en plus totalement consacrés pour le Christ. Et vous voyez, ce qui est très beau, c'est lorsque on dit à Jésus, quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? Puisque Jésus chasse les vendeurs du temple, et il les chasse rudement. La taille du Père ne fait pas ça mollement. Ah, je vais vous faire du mal, faites attention. Non, pas du tout. Jésus les chasse. Et quand on lui demande quel signe nous montres-tu pour agir ainsi, Jésus répondit, détruisez ce saint des saints. Et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, voilà 46 ans qu'on travaille à bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le releveras. Et lui parler du sanctuaire de son corps. Lors donc qu'il se fut révélé, relevé d'entre les morts, ses disciples se souvint qu'il disait cela. Ils crurent l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Vous voyez que c'est important. Le seul signe que Jésus donne, c'est la blessure de son cœur. Détruisez ce sanctuaire. Il y a quelque chose de très grand là. Rien d'autre ne peut justifier cette exigence du sacré, la blessure du cœur de Jésus. Et là encore, vous voyez comme c'est joannique, on ne pourrait pas le comprendre sans la blessure du cœur de Jésus. Parce que la blessure du cœur de Jésus nous fait comprendre comment tout dans le Christ est victime d'amour, donc est sacré. Parce que l'adoration, c'est pour être victime d'amour. L'adoration, c'est pour offrir à Dieu toute notre vie en holocauste d'amour. Et donc l'adoration chrétienne, elle implique la blessure du cœur. Elle implique la croix. Et elle implique la blessure du cœur, puisque tout s'achève là, dans la blessure du cœur. C'est donc le grand mystère de la blessure du cœur qui est présent au plus intime de nous-mêmes par Jésus. Dès que nous voulons vivre avec vérité cette exigence du temple de Dieu, cette exigence de l'adoration, c'est immédiatement la blessure du cœur de Jésus. Il n'y en a pas d'autre signe. Ça fait comprendre encore une fois comment l'adoration, si elle est première, elle est dernière aussi. L'adoration existera éternellement dans le ciel. Alors c'est sûr, la vision béatifique, c'est pas l'adoration. C'est sûr, elle est conjointe à la vision béatifique et inséparable de la vision béatifique. Dans toute cette grande liturgie d'adoration qui sera éternelle. Alors ici sur la terre, c'est sûr, l'adoration nous conduit à l'amour. Et c'est l'amour divin dans la foi qui est la grande attente de la vision béatifique. Mais ici-bas, puisqu'il n'y a pas encore la vision béatifique, l'adoration prend cette dimension extraordinairement profonde d'être ce qui nous maintient dans la soif de contemplation. Pour être entièrement consacré, entièrement donné. Troisième aspect que Jean a compris, c'est l'entretien avec Nicodème. C'est le troisième aspect que Jean souligne. L'agneau qui porte l'iniquité du monde et qui se donne à Israël. C'est l'entretien avec Nicodème. L'entretien avec Nicodème nous fait comprendre la perspicacité de l'intelligence de Jean. Perspicacité prodigieuse. Jésus, face à ce docteur en Israël, voit tout de suite la grande tentation. Est-ce que c'est la tentation, l'attente de tous les théologiens? C'est une grande tentation. C'est d'oublier la gratuité. Oui, les théologiens, ils raisonnent, alors ils oublient la gratuité. Parce que quand on raisonne, on oublie la gratuité. La gratuité, c'est en dehors de tout raisonnement. C'est qu'ils oublient la gratuité. Ils oublient cette naissance d'en haut. Alors si Jean nous rapporte cela en petit, que toute la théologie de Jean, elle est là, dans cet entretien de Jésus avec Nicodème. Jean n'a pas écrit un traité de théologie, mais il nous a donné la leçon de théologie de Jésus par rapport à Nicodème. Et c'est plus grand. Et cette leçon de théologie de Jésus à l'égard de Nicodème, mais tout en ordre. Il nous fait comprendre que le premier problème théologique, c'est de naître de l'esprit et de l'eau. C'est le mystère de la grâce. C'est le premier mystère capital sur lequel on doit tout le temps venir. Vivre de cette gratuité. Nous naissons. cette gratuité, naître à la vie divine de l'eau et de l'esprit. Et voyez, c'est vrai que c'est difficile de vivre dans la gratuité. C'est pourtant indispensable pour comprendre que nous sommes actuellement sauvés et que c'est cette gratuité qui nous fait vivre en enfant de Dieu, en fils de Dieu. Gratuité d'amour exprimée par le souffle de l'esprit. Gratuité de lumière. Cette naissance, cette vie.